Vous écoutez
RMC.
RMC 2022, l'interview grand format.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour à vous.
Merci de répondre à mes questions ce matin sur BFM TV et RMC pour une interview exceptionnelle, interview XXL puisqu'on est ensemble pour une heure. On va pouvoir parler bien sûr de l'actualité, de la campagne, de votre programme et des préoccupations des Français. Je voudrais commencer d'abord par, vous l'avez peut-être entendu, les propos de Martin Hirsch. Martin Hirsch qui est donc le patron de l'AP-HP, les hôpitaux parisiens. Il pose la question, est-ce qu'il faudrait faire payer les soins d'hospitalisation aux non-vaccinés? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ne suis pas d'accord pour qu'on rentre dans ce type de démarche. On a défini une stratégie qui est celle de la vaccination, qu'il faut augmenter, poursuivre, parce qu'elle protège, parce qu'elle permet d'éviter des cas très graves. Il faut continuer cette pédagogie. Il faut, je pense aussi, commencer à travailler sur comment on prévient ce type d'épidémie, comment notre système hospitalier répond, parce que là, quand même, la difficulté, et je pense que Martin Hirsch, que j'apprécie beaucoup, qui est directeur général des hôpitaux de Paris et je préside l'AP-HP, est quelqu'un qui, évidemment, a le souci premier de comment répond l'hôpital.
Mais alors, comment vous comprenez ces propos?
Je ne vais pas commenter ces propos.
C'est un homme de gauche, en plus, au départ. Hein, il vient du cabinet de Martine Aubry.
Peu importe qu'il soit de droite ou de gauche. Bah, mais je vous donne
mon point
de vue.
C'est quand même une question quasi philosophique.
C'est une question philosophique et moi, je ne la résous pas de cette façon-là. Je pense qu'il faut, au contraire, dans notre pays, ça fait partie de mes propositions, avoir une vraie politique de santé publique que nous n'avons pas pour permettre justement à nos concitoyens de vivre mieux. On sait qu'il y a des facteurs de comorbidité, les personnes qui sont obèses, les personnes diabétiques, qui sont beaucoup plus vulnérables à ce virus. Il nous faut donc travailler sur des questions de santé publique à moyen et à long terme. Dans le court terme, puisque nous sommes encore dans l'urgence d'une épidémie, il faut apporter les solutions par la vaccination et surtout permettre à l'hôpital de tenir.
Alors, cela dit, on va évidemment prendre le temps tout à l'heure de revenir sur vos propositions, notamment pour lutter contre les déserts médicaux qui est vraiment un fléau aujourd'hui pour les Français. Mais, pardon, je reviens quand même un instant sur un mot que vous avez dit, il faut faire de la prévention. Mais c'est exactement là-dessus que s'appuie Martin Hirsch pour sa proposition, parce qu'il dit, est-il logique de bénéficier de soins gratuits de prévention, justement, avec la vaccination? Elle est gratuite, la vaccination, c'est de la prévention. Et donc ensuite, pourquoi continuer à être soigné si on n'a pas joué le jeu?
Parce qu'on est dans un pays qui est fracturé, dans un pays où nos concitoyens s'affrontent, dans un pays où il y a beaucoup d'incompréhensions. Et je pense que la meilleure façon de sortir de ces incompréhensions, ce n'est pas de distinguer encore selon les populations, c'est de prendre les sujets rationnellement. On a été, et avec Martin Hirsch, extrêmement sur le front pour que l'hôpital réponde. Parce que ce qui s'est passé dès la première vague, dès mars 2020, c'est que l'inquiétude que nous avions, je me souviens d'un coup de fil que je lui ai passé à ce moment-là, ça devait être à peu près en début mars 2020, et je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe si il nous arrive la même situation qu'en Chine ?» Et il m'avait dit « je ne sais pas si ça tient, on va tout faire pour que ça tienne, parce qu'on n'avait pas les lits de réa suffisants, parce qu'on avait déjà des tensions sur l'hôpital, il y avait déjà eu un mouvement des hospitaliers expliquant qu'ils n'en pouvaient plus, que c'était vraiment de la souffrance, France, des conditions de travail extrêmement dégradées parce qu'il n'y avait pas les personnels suffisants. L'hôpital a tenu sur, justement, l'abnégation, je tiens à le dire, de tous ces soignants qui sont allés bien au-delà de leur mission et de leur force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis mars 2020, ce gouvernement a supprimé 5 700 lits au lieu de rajouter des lits, au lieu d'accompagner vers plus de moyens. Il y a eu le Ségur de la santé, mais le Ségur de la santé n'a apporté que quelques petits éléments et pas du tout une approche plus structurante, plus solide, consolidant l'hôpital qui est un bien public. L'hôpital public est un bien public.
On va parler donc aussi des fonctionnaires.
J'ai beaucoup de points d'accord avec Martin Hirsch et il m'inspire beaucoup sur beaucoup
mais
de
sujets. Mais vivant, pas là-dessus.
Pas là-dessus, parce que je pense que notre société est beaucoup trop fracturée et qu'il faut réunir les
encore
Français.
Un mot
C'est d'ailleurs, je dirais, le slogan de ma campagne.
Et encore un mot sur la question du Covid. Covid. C'est aujourd'hui que la Grande-Bretagne lève toutes les restrictions. Le Danemark s'apprête aussi à le faire. En Espagne, c'est une vie normale. On ne teste même plus, hein, ou en tout cas pas de manière systématique. Est-ce qu'il faudrait faire pareil?
Je crois qu'il faut commencer à s'inspirer de ces pays qui considèrent que on met en place le vaccin. D'ailleurs, comme pour la grippe, on prévient parce qu'on sait qu'il y a des personnes plus fragiles, les personnes âgées, les personnes avec des facteurs de comorbidité. On met en place une politique de prévention avec les gestes barrières, une politique saisonnière. On voit bien qu'il y a une saisonnalité quand même à cela.
Commencer à s'inspirer.
Et donc, commencer à s'inspirer, c'est regarder
on le fait pas.
Comment on vit dans la durée avec ce virus. Comment on accompagne aussi par la recherche, par le séquençage, la compréhension de ces mutations. La France a toujours été en retard.
Mais précisément, ma question elle est assez précise sur les restrictions. La Grande-Bretagne qui les lève, le Danemark qui les lève, l'Espagne qui n'a plus de restrictions. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas?
Je pense que, et en tous les cas, c'est la proposition qui a été faite par le groupe socialiste, notamment au Sénat, qu'il faut des règles automatiques. Vous voyez, c'est pas le matin, on se lève et on se dit, ah bah tiens, on va lever les restrictions. Ah bah tiens, on va faire comme les autres, on va lever les restrictions. Non, il faut partir de données scientifiques sur l'épidémie. Et donc, ce qui a été proposé, notamment par les sénateurs socialistes, ça a été de dire, prenons un niveau de contamination en dessous duquel on déclenche justement plus de liberté, plus de possibilités de retrouver un peu la vie d'avant. Et puis, au-dessus d'un seuil de contamination, on, de façon automatique, on rebascule sur des mesures de protection, de prévention, voire même de limitation de nos libertés. Ce qui est très, difficile dans cette affaire, c'est que on ne peut pas avoir des privations de liberté sans qu'elles soient vraiment discutées à partir des données scientifiques. Et le choix qu'a fait le président de la République de créer sur ce sujet de la gestion de la crise Covid une forme de secret défense, puisqu'il décide tout seul en conseil de défense, c'est-à-dire en garantissant des informations complètement en dehors de
du regard public. Qui lisent en quelque sorte, certains comme Marine Le Pen parlent d'une campagne covidentielle, c'est-à-dire que le Covid serait en train d'écraser tout et presque dans un sens il jouerait un peu les prolongations.
J'irai pas sur ce terrain-là, mais je pense que la façon dont il a géré cette crise Covid, par le secret, par cette infantilisation des Françaises et des Français, par l'absence de débat sur la question.
Alors le débat il a eu lieu aussi entre les médecins, le conseil scientifique.
Moi je parle de débat démocratique et bien sûr qu'il y a le conseil scientifique, mais enfin, vous avez vu à certains moments comment le conseil scientifique lui-même expliquait qu'il n'était même pas pris en compte dans ses avis par le président de la République et qu'il ne comprenait pas les décisions du président de la République dans le conseil de défense. Donc vous voyez très bien, c'est très difficile de gérer une crise comme celle-là. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile et que n'importe qui aurait pu immédiatement faire mieux. Mais il y a des principes. Et pour moi, il y a un principe, et ça je l'ai appris avec les infectiologues, notamment de la PHP. Ils m'ont dit, une épidémie, ça se gère aussi par de l'information transparente et ça se gère non pas en infantilisant la population, mais en la mettant elle-même en situation d'être actrice de la réduction de cette épidémie.
Anne Hidalgo, alors est-ce que vous allez à la primaire ou pas? Parce qu'on ne comprend plus rien moi-même, je ne comprends pas tout à fait.
Je pense que vous comprenez très bien, mais s'il faut clarifier...
Il y a une primaire, je crois qu'il faut clarifier parce que ce matin, il y a 400 000 personnes qui sont appelées à voter.
Très bien.
Qui sont appelées à voter.
Je vais clarifier.
Est-ce qu'ils doivent voter pour vous? Vous êtes sur les listes.
Vous verrez. Et j'espère que vous comprendrez parce que beaucoup ont compris. Oui, il y a un problème de désunion de la gauche qui désespère le peuple de gauche. Oui, ça je l'ai entendu. Je l'ai tellement entendu qu'en décembre, j'ai pris cette initiative et ce risque de dire à celles et ceux qui voulaient gouverner ensemble, je pensais évidemment essentiellement aux Verts, de se réunir et de pouvoir ensemble faire une primaire. C'était aussi une façon de réoccuper l'espace médiatique et politique, puisque souvenez-vous, en décembre...
Donc c'était un coup de bluff ?
Non, c'était pas un coup de bluff. C'était une orientation stratégique majeure à un moment où, historiquement, la gauche devait faire quelque chose, parce que le peuple de gauche nous disait ne nous laissez pas dans cette situation.
Mais rien ne s'est passé.
Ça ne s'est pas passé parce qu'effectivement, les partenaires, et je pense essentiellement aux Verts, ont refusé cela en disant non, nous on a eu notre primaire. Ok, ils avaient eu leur primaire, mais on n'avait pas eu ce moment-là. Et j'étais prête, évidemment, je l'ai dit, à prendre le risque aussi de perdre. Et de perdre et de travailler avec le vainqueur si ça n'avait pas été moi. Et de travailler comment ? Non pas par un effacement, non pas en se mettant sous la coupe de qui que ce soit, mais en créant une dynamique. Ça n'a pas pu avoir lieu. Il y avait un autre processus.
Dynamique.
Non, ça n'a pas pu avoir lieu. Il n'y a pas eu ni de primaire, ni de dynamique. Mais je pense que si Yannick Jadot, moi-même, Fabien Roussel, nous avions été candidats. J'ai dit ceux qui veulent gouverner ensemble. Je l'entends beaucoup dire qu'il ne veut rien avoir à voir avec ce qu'il appelle le vieux PS, dont lui-même est issu sans doute plus que moi, voyez-vous. Mais je l'ai entendu. Cette primaire n'a pas eu lieu. Et la dynamique n'a pas eu lieu.
Sauf qu'il y a quand même cette primaire populaire qui commence aujourd'hui, commence à 9h. Oui. À 9h, ils sont appelés. Il y a 400 000 inscrits. Oui. Mm-hmm. Vous êtes inscrite presque malgré vous, je dirais, si j'ai bien compris.
Oui,
vous n'étiez pas vraiment candidate.
Comme Jadot, Mélenchon. Et d'autres ne sont pas inscrits eux, comme Fabien Roussel.
Donc c'est
notamment.
Quand même très compliqué. Pardon,
oui, c'est compliqué,
alors,
ça c'est sûr.
Vous êtes inscrite malgré vous. Mais maintenant qu'il y a quand même 400 000 personnes qui se sont elles-mêmes inscrites pour voter, vous leur dites quoi ? Vous leur dites ne votez surtout pas pour moi parce que je veux pas participer ?
Non,
ou est-ce que vous leur dites quitte à être là, allez-y.
Je leur dis simplement d'abord, il y a ce processus de primaire populaire pouvait être très sympathique parce que quand les citoyens se mêlent de démocratie, c'est toujours très important, surtout dans un moment de crise démocratique comme ce que nous vivons. Mais toujours est-il que les conditions de ce vote ne sont pas vraiment des conditions acceptées par
vous
ceux qui pourraient y participer. J'ai entendu ce qu'on dit, Mélenchon, Jadot, quelque chose quand même qui pour moi relève d'une erreur fondamentale qui jette quand même un peu de discrédit sur cette primaire populaire. Quelqu'un comme Fabien Roussel n'était même pas invité à participer à cette primaire populaire.
C'est une forme de hold-up un peu, de vous avoir inscrit.
Non, écoutez, c'est comme ça, ils font cette primaire populaire, que ceux qui sont inscrits et qui veulent voter aillent et votent. Une chose est claire pour moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises, la page est tournée, j'ai une proposition, un projet, une équipe avec des maires, des élus, avec beaucoup de femmes et d'hommes partout sur le territoire qui attendent que nous portions
propositions. Vous inquiétez
et
pas,
donc
mais je n'ai toujours pas compris quand même une chose, c'est que donc vous êtes inscrite malgré vous, vous dites la page est tournée, sauf qu'il va y avoir quand même ce vote, il y a Christiane Taubira qui elle y participe activement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas inscrite malgré elle. Les résultats tomberont dimanche soir. Est-ce que vous allez jeter ces résultats à la poubelle ? C'est-à-dire que c'est quand même ces 400 000 personnes qui se sont inscrites et qui vont sans doute participer, puisque s'ils sont inscrits, c'est qu'ils vont participer. Il y a quand même en ce moment que 22 000 inscrits au Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas du tout dans les mêmes proportions. Et vous allez dire, non mais ça ne me concerne pas.
Je ne vais pas dire ça ne me concerne pas. Je vais dire c'est intéressant, sympathique, mais moi je continue mon chemin. Comme le diront d'ailleurs Mélenchon, Jadot et les autres, et nous continuerons notre chemin. Et vous savez, ce qui m'importe aussi, c'est nous sommes dans ce moment d'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est un moment qui est attendu par les Françaises et les Français pour poser les orientations vers où on va. C'est une question qui se pose aussi à la gauche. Je pense aussi à ce qui se passera dans cette élection présidentielle, mais aussi à la façon dont on peut reconstruire une offre politique de gauche, de gouvernement, qui est celle
mais
que je
porte. Cette session,
et donc,
si Christiane
et donc
Taubira...
pour construire cela, je le dis et je le redis, il faut une force centrale, celle que j'incarne, que je représente, cette force centrale. Vous regardez tout ce qui s'est passé dans les pays européens où il y a eu ces débats, il y a eu ces difficultés à gauche, il y a eu cet émiettement de la gauche qui a existé aussi, que ce soit dans les pays dans les pays du Sud. Eh bien, dans tous ces pays-là où on nous a dit la social-démocratie est morte, la social-démocratie n'a plus de sens, eh bien, c'est quand même autour de la social-démocratie, de cette offre qui est une offre politique.
Mais là, que vous parlez
centrale.
Dans un livre.
Non, je ne parle pas
de théorie politique.
Je suis en train de vous dire, c'est que dans les faits, si on veut qu'un jour la gauche gagne en France et gouverne à nouveau, c'est autour de cette force centrale que je représente que cela pourra se reconstruire.
Vous avez appelé Christiane Taubira ?
Vous lui avez parlé ?
Personnellement, elle m'avait appelée il y a quelques mois, avant Noël, pour me demander si elle pensait qu'elle était une solution. Elle avait appelé Jean-Luc Mélenchon.
Et vous lui avez répondu quoi ?
Appelé également Yannick Jadot. Je lui ai dit, viens et faisons équipe ensemble. Mais sa solution, c'était de venir comme candidate. Je lui ai dit, si c'est pour ajouter une candidature, ce sera de la confusion supplémentaire.
Si elle sort confortée par un vote
le
conséquent
fond de ma pensée
de cette primaire,
eh bien, ça sera une candidature de plus.
Ça sera une candidature de plus. Vous seriez plutôt, Anne Hidalgo, la baguette à 29 centimes chez Leclerc ou la baguette à 90 centimes chez l'artisan boulanger ?
Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat et donc un certain nombre de distributeurs s'y intéressent, je ne vais pas les critiquer. En revanche, le travail doit payer en fonction de ce qu'il coûte. Et je suis très très soucieuse aussi que nos artisans, nos boulangers, celles et ceux qui sont dans ce travail artisanal et pas, je dirais, industriel, puissent continuer à vivre. Donc c'est important et je ne vais pas faire grief à Michel-Édouard Leclerc de ne pas se préoccuper de pouvoir d'achat. C'est très bien que la grande distribution le fasse. Mais elle ne peut pas faire ça, la grande distribution, sans penser aux producteurs et sans penser à ceux qui fabriquent. Les producteurs, c'est les agriculteurs.
Et donc, on fait comment ? Pour à la fois avoir des produits pas chers pour les plus modestes et en même temps rémunérer à sa juste valeur les producteurs ?
Eh bien, on augmente les salaires. Et tout part du salaire. Et on fait en sorte qu'il y ait plus de travail dans notre pays. On arrête cette désindustrialisation qui a été une stratégie de la France et qui n'a pas été vraiment stoppée par le président Macron qui, lui, a prôné la Startup Nation, mais qui n'a pas du tout, même si dans son discours, de temps en temps, on entend le mot, qui n'a pas du tout freiné les délocalisations, il n'a pas du tout freiné la disparition de notre outil industriel. Donc on augmente les salaires. Moi, je pense que le sujet français du pouvoir d'achat, c'est d'abord les salaires. Nous sommes à des niveaux de salaires dramatiquement faibles, y compris par rapport à nos voisins européens.
Vous serez dans la rue tout à l'heure ?
Non, je suis sur un plateau et j'essaye.
Non, mais
dans
c'est
le
plus
rôle
tard,
qui est le mien. J'adore manifester.
Les deux sont compatibles. Hein.
J'adore manifester et je serai très volontiers dans beaucoup de manifestations. Mais j'essaye de jouer mon rôle aussi en apportant un éclairage sur ce qui se passe. Vous voyez, je vous dis, la réponse, elle est
mais
par le salaire.
Mais votre rôle en tant qu'élu social, c'est parce aussi, que c'est pas justement d'être aux côtés de ceux qui vont manifester
ce
aujourd'hui
que je
pour
fais,
la hausse
des salaires. C'est ce que je fais, mais ce que je fais aussi en apportant des solutions. Mon rôle en tant que responsable politique, c'est de ne pas confondre mon rôle avec les organisations syndicales et je respecte évidemment leur indépendance. Mon rôle, c'est aussi de porter la parole des Françaises et des Français et de trouver des solutions. Et la solution, et vous verrez que d'ailleurs dans mon programme, je démarre par ça, c'est la question du travail. Et je pense que dans notre pays, la désindustrialisation a été vraiment accompagnée par les pouvoirs publics et nous nous sommes réveillés un matin dépendants sur beaucoup de sujets.
Le travail, Anne Hidalgo, c'est la très très belle nouvelle du jour, baisse historique du chômage. François Hollande en a rêvé, inverser la courbe, c'était vraiment une obsession. Ça y est, c'est Macron qui l'a fait.
Oui, c'est Macron qui l'a fait. Je dirais pas ça comme ça. Je pense que c'est très bien et je me réjouis quand il y a une baisse du chômage parce que c'est une bonne nouvelle. Mais ce que je vous dis, si on veut que cela dure, si on veut être dans un pays qui retrouve aussi sa souveraineté industrielle, qui ne soit pas dépendant. On l'a vu, la pandémie a eu au moins cette vertu de montrer où étaient nos fragilités et nos dépendances sur les médicaments, sur les masques. Nous avons vu aussi que nous pouvions réindustrialiser le pays. En tout cas, c'est ma proposition. J'y propose 4 odyssées industrielles, une sur la santé, une autre notamment aussi sur les énergies renouvelables, une autre sur le numérique et une sur les mobilités. Où je pense que sur ces grands 4 domaines, nous pouvons construire avec la recherche, avec les entreprises, les grandes, mais aussi les ETI et les PME, avec les salariés et les syndicats, nous pouvons reconstruire des stratégies industrielles qui remettent du travail et de l'emploi industriel, bien sûr décarboné, correspondant à ce que nous devons faire.
Alors là-dessus aussi, il y a des points qui ne sont pas forcément évidents. On va revenir sur les choses, mais sur le nucléaire.
Je termine juste ma phrase, Apolline de Malherbe. Et donc, ce travail-là, il doit aussi rémunérer. Ce n'est pas du travail low cost, ce n'est pas les bullshit jobs, d'accord ? C'est pas ça.
Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un bullshit job que pas de job du tout?
Eh bien, je ne crois pas. Parce que, in fine,
vaut mieux pas de job du tout?
C'est pas ça. C'est que le bullshit job, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit complètement l'économie.
Alors, vous appelez ça bullshit job, c'est-à-dire.
Il détruit l'économie.
On pourrait dire job.
Il détruit les personnes.
Mais, et vous, en Allemagne, ils appellent ça les mini-jobs. C'est un peu moins dévalorisant que ce que vous en dites. Et ça a été une des manières de remettre les gens au travail, non?
En Allemagne, ce qui a toujours été la base, qui a permis à l'Allemagne de se relever d'ailleurs plus vite que nous de la crise de 2008, c'est qu'ils ont compris plus tôt que nous qu'il fallait faire du chômage partiel massif pour éviter justement les chocs que pouvaient subir les entreprises et pour éviter les pertes d'emplois. Donc je vous le dis, ce qui est en train de se passer par exemple avec les travailleurs des plateformes numériques qui sont des gens surexploités dans des conditions de travail qui sont totalement indignes, eh bien ces emplois-là détruisent la valeur économique de notre pays, et détruisent aussi la confiance.
On aura du temps justement pour y revenir. Ce que vous appelez donc les mini-jobs.
Vous préférez pas les mini-jobs, les bullshit jobs.
qu'un job tout court. On y revient tout de suite.
À suivre sur RMC, les grandes gueules, Alain Marchal.
Dans les GG aujourd'hui, nous serons avec l'avocate Marianne Soubré, le fromager Johnny Blanc, le professeur d'histoire-géographie Kevin Bossuet. On parlera notamment des salaires. Tiens, c'est vraiment... aujourd'hui au cœur de la campagne électorale, est-ce que vous estimez être bien payé? Qu'est-ce qu'un bon salaire? Qu'est-ce qu'être bien payé aujourd'hui? Et est-ce que les entreprises, toutes les entreprises, ont vraiment les moyens d'augmenter les salaires? 32-16 pour venir en parler avec les GG. Coup d'envoi des grandes gueules à 9h.
Cuir Center. Plus de couleurs, plus de confort, plus de personnalisation. Votre nouveau canapé doit s'adapter à toutes vos envies de changement. Alors n'attendez plus. Pendant les soldes chez Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu, disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur cuircenter.com.
Maël, faut qu'on parle. L'hot dog, ça passe encore. Mais faudrait peut-être ralentir sur le beurre de cacahuète.
Bon, ça va. Je porte mes hoodies larges, ça passe.
Et arrête les high five à tout le monde.
Même à ta mère.
Et inscrire le petit au baseball? On comprend rien. Même lui, comprend pas ce qu'il fait.
Ne prenez que le meilleur de l'Amérique. À l'occasion du prix d'Amérique, le PMU met en jeu une tirelire exceptionnelle de 3 millions d'euros au Quintet Plus le dimanche 30 janvier. PMU, que les meilleurs gagnent. Hoodies égale sweat à capuche, high five égale tapement 5.
Conditions, informations, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Envie de vraies vacances? Sonelia. 30 campings d'exception dans les plus belles régions en France et en Europe. Club enfant, spa, équipement premium, activités et animations sportives pour toute la famille. Et toujours la qualité de service, Sonelia. Vos vacances commencent maintenant sur sonelia.com.
Une fenêtre, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 45 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie.
Jeannot, menuisier créateur.
Changez votre cadre de vie sur jeannot.com.
Tu m'as pas dit comment s'était passée l'installation de ton alarme?
Au top, je dors super bien depuis que l'alarme est activée.
Ah ouais, et t'as fait comment déjà?
Bah, tu vas sur le site de Verisure et tu commences ton devis, ça prend une minute. L'expert sécurité Verisure était chez moi 24 heures après.
Top.
Rendez-vous sur verisure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verisure.
Anna aime sa région. En fait, elle ne partirait pour rien au monde. Et ça tombe bien parce qu'elle sait qu'elle n'a aucune raison de partir. Oui, parce que sur Le Bon Coin, avec un profil visible par des milliers de recruteurs grâce à la CVTech, Anna sait qu'elle aura toutes ses chances de trouver le bon métier dans sa région, tout près de chez elle. Trouvez dès maintenant le bon métier au bon endroit sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, le bon pour tous.
Pierre, mais qu'est-ce que vous faites là?
Ouh, ben, ce matin, j'avais plus assez de data sur mon téléphone pour vous envoyer le compte-rendu de la réunion. Alors, je vous l'apporte en ma propre. Tenez.
Mais c'est pas possible, Pierre, il est minuit.
Ah mais vous habitez loin aussi, chef.
Les pros ne peuvent pas se permettre de manquer de data. Avec l'offre mobile Free Pro, bénéficiez d'un forfait unique avec 150 gigas en 5G 4G+. Appelez Free Pro au 1043.
Offre réservée aux professionnels, 5G en cours de déploiement et avec mobile compatible. Conditions sur pro.free.fr.
Géraldine Demory pour la météo.
Avec un petit peu de pluie qui arrive par le nord aujourd'hui, alors c'est vraiment la nouveauté, l'anticyclone s'affaisse un petit peu. Résultat, pluie faible sur le Nord-Pas-de-Calais ce matin qui va glisser vers la Normandie, à l'Île-de-France en deuxième partie d'après-midi jusqu'aux Ardennes. Il faudra se méfier ce soir et la nuit prochaine d'un risque de pluie verglaçante sur le nord-est jusque sur le nord de l'Auvergne. Globalement, au nord de la Loire, ça va rester très gris aujourd'hui, alors qu'au sud, ce sera du soleil, avec le Mistral qui se lève un petit peu. Les températures seront encore très contrastées aujourd'hui, avec 1 degré seulement à Dijon, mais 17 degrés à Perpignan. Il fera 13 degrés à Nice, 12 à Marseille, 10 à Brest, 9 à Lille, 7 degrés à Paris ou à Grenoble, 6 à Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, 5 à Reims ou à La Rochelle, 3 degrés à Lyon, Nancy et Strasbourg. Demain, on retrouvera un temps calme avec beaucoup de soleil des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes, mais avec un Mistral qui sera violent. Ailleurs, ce sera souvent nuageux et puis le week-end sera très doux. Samedi, sur la moitié nord, ce sera gris avec un petit peu de pluie au nord de la Seine. Dimanche, on retrouvera des éclaircies au nord de la Seine et puis beaucoup de soleil dans le sud des Pyrénées à la Méditerranée. Entre les deux, ce sera quand même très nuageux. Il n'y aura pas de gelée le matin en pleine et il faudra compter 10 degrés de moyenne l'après-midi.
Jeudi 27 janvier,
l'info sur RMC.
Toute l'actualité, Céline Kallmann.
Et c'est une information RMC Sport. Une deuxième explosion suspecte a eu lieu sur le Dakar au lendemain de celle qui a grièvement blessé le pilote français Philippe Boutron. Fonction publique, transport, éducation nationale, journée de mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui dans toute la France pour de meilleurs salaires et contre une vie toujours plus chère. Ce sera mardi prochain, la ministre de l'Autonomie Brigitte Bourguignon convoque le directeur général d'Orpea après les révélations accablantes sur la maltraitance des résidents dans les EHPAD du groupe. C'est aujourd'hui que la course au parrainage est officiellement lancée. Les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour recueillir leurs 500 parrainages d'élus. Et puis les Bleus du handball héroïque, ils ont fait plier le Danemark hier soir et se qualifient pour les demi-finales de l'Euro après une fin de match complètement dingue. Il est 9h sur RMC. Tout de suite, Anne Hidalgo, invitée d'Apolline de Malherbe.
RMC.
RMC 2022, l'interview grand format.
Apolline de Malherbe.
Et on poursuit avec vous, Anne Hidalgo, cette interview spéciale présidentielle. Une heure ensemble, on est ensemble jusqu'à 9h30. Je voudrais qu'on poursuive avec aussi des propos que vous avez tenus, parce que, au fond, vous êtes en campagne depuis octobre, on est en janvier, et pourtant vous dites ça.
Tel est l'objet de la campagne qui s'ouvre dans les jours qui viennent.
La vraie campagne, elle commence maintenant.
Cette campagne démarre pour tout le monde.
Cette campagne
n'a pas encore démarré véritablement.
Alors, vous n'avez pas arrêté de dire que ça n'avait pas démarré. Est-ce qu'on peut dire, au moment où on se parle, là, qu'elle a démarré?
Elle commence, mais elle n'a pas complètement démarré.
Ça vous arrange un peu de dire qu'elle n'a pas démarré?
Non, je pense qu'il y a des rythmes, vous savez. D'abord, les Françaises et les Français sont quand même sous, je dirais, la pandémie et préoccupés par le pouvoir d'achat, la santé, l'avenir de leurs enfants, l'école, etc.
Oui, mais tout ça, c'est de la politique?
C'est de la politique, complètement. Je suis d'accord avec vous, mais... Pour eux, ils ne l'ont pas encore traduite, je pense, en termes de quel choix pour avril prochain. Deuxièmement, le temps de campagne que l'on vient de vivre, parce que c'était quand même un temps de campagne, était un temps de préparation, d'organisation. Ce temps-là, je l'ai consacré à quoi ? À préparer mon équipe, mais aussi à préparer mon projet. Parce que pour moi, bien sûr, il s'agit d'arriver devant les Françaises et les Français en leur disant ce que je veux leur proposer, ce que je veux faire. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait un projet sérieux, chiffré, etc. Et là, maintenant, nous sommes en janvier. Là, maintenant, effectivement, les Françaises et les Français commencent, je crois, à regarder, à se réintéresser à ce que nous proposons, à voir qui sont les candidats. Je le sens par quoi ? Par les sollicitations, par les rencontres que je peux avoir. Et donc, la campagne va démarrer. Elle démarrera...
Va démarrer, vous en parlez encore au futur.
Absolument, parce qu'elle démarrera vraiment quand tout le monde sera sur la ligne de départ.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il faut quand même qu'à un moment, il le dise.
Ça, il va falloir, parce que tout le monde sait qu'il est en campagne. On peut pas être en campagne éternellement en utilisant les moyens de l'État tout en disant qu'on n'y est pas. Mais bon, ça, je pense qu'il résoudra ce problème-là, comme tous les présidents sortants. En général, ils se déclarent assez tard. Et puis, il faut que tout le monde soit sur la ligne de départ avec ses parrainages, ses équipes.
Vous disiez programme et j'ai pris le temps d'expliquer, de chiffrer, etc. Et pourtant, il y a un certain nombre de points qui étaient vraiment votre manière justement de lancer la campagne, dont on n'a pas très bien compris finalement où est-ce qu'on en était. Il y a eu une phrase, vous avez dit « je vais doubler le salaire des profs ». est-ce que vraiment vous allez doubler le salaire des profs ? Ou est-ce que finalement, vous avez peut-être parlé un peu trop vite ?
Alors, pour clarifier, dans mon livre, puisque j'ai fait un livre qui est sorti en septembre, dans ce livre, je dis trois choses. Les profs français sont parmi les plus mal payés en Europe, deux fois moins par exemple que leurs collègues allemands et que leurs collègues néerlandais, mais même beaucoup moins que leurs collègues espagnols ou portugais. Et donc, cette question du salaire des profs est un problème, parce que la qualité de l'école dépend aussi de la considération qu'on apporte aux enseignants. Dans ce même livre et dans la phrase qui suit, où je dis, il faudra bien sûr aller vers un doublement des salaires et ça doit être un objectif et un cap, je dis comment pouvons-nous nous y prendre ? À tout le moins, nous pouvons et nous devons démarrer par les salaires des profs entrants. Ça veut dire quoi ? Un professeur des écoles aujourd'hui, il démarre à 1700 euros, d'accord ? Sa grille indiciaire. Il termine sa grille indiciaire à 2500 euros. Ce que je propose pour aller vers cet objectif de rattrapage des salaires des profs par rapport aux salaires des profs allemands qui sont payés deux fois plus, je propose que l'on démarre la carrière d'un professeur des écoles à 2300 euros. Pourquoi 2300 euros ?
C'est pas doublé, hein, si j'ai fait le bon
calcul.
Non,
bien sûr, c'est pas doublé, mais je dis, on démarre et ensuite on progresse. 2300 euros au lieu de 1700, pourquoi ? Parce que c'est le niveau de salaire qu'ont les personnes qui ont le même niveau de diplôme que nos enseignants, c'est un bac plus 5 en général, et ils termineront leur carrière dans la grille indiciaire à 4000 euros. Et comment on fait pour entraîner toute une profession vers le haut ? C'est d'ailleurs pas la seule profession. Et bien ensuite, par des négociations. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon programme. Donc, un livre, ça fixe un cap, et un programme, ça précise la méthode.
Ça précise les choses, et dans l'interview également. Ça, c'est pour ce qui est du salaire. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnaires et de tous ceux qui travaillent. Il y a eu ce moment où vous étiez dans la gare de Saint-Galtier.
Oui.
Et je voudrais qu'on écoute ce que vous aviez dit.
Ouais. Je suis à la gare de Saint-Vallier. Je peux vous dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier. Mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi.
Alors, vous étiez à Saint-Vallier et tout le monde vous est un peu tombé dessus parce que vous aviez l'air de découvrir qu'il y avait des machines pour acheter des tickets, qu'il y en avait d'ailleurs dans les métros parisiens. Bon, mais sur le fond, vous allez remplacer chaque machine par un être humain ?
Sur le fond, qu'est-ce que je dis en disant cela ? Je dis qu'il faut remettre du service public et de l'humain partout. Vous savez, les personnes âgées, lorsque à Saint-Vallier ou dans d'autres lieux, elles sont obligées d'appeler au téléphone ou de passer par le numérique avec lequel elles ne sont pas très 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 à l'aise et qu'elles n'ont personne. Quand vous appelez une plateforme téléphonique qui est d'ailleurs souvent localisée très loin de chez nous et que vous avez des gens qui vous demandent d'attendre et qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'humain, pas d'humain. Pendant la séquence pub, il y avait une pub là pour une banque qui était exactement sur le même thème. Et en la regardant depuis votre plateau, je me disais, tiens, ça me rappelle ce que j'ai dit à Saint-Vallier. Donc, qu'est-ce que je dis ? Qu'il faut remettre du service public partout. D'ailleurs,
ça veut dire des embauches de fonctionnaires.
Ça veut dire qu'il faut remettre du service public pour faire tenir notre pays. Vous savez, certains ont cru qu'il suffisait de remplacer les hommes par des machines pour que tout aille bien. Et en fait, non, ça ne marche pas.
Combien de fonctionnaires de plus avec vous, Anne Hidalgo ?
On a besoin d'abord de mettre du service public partout. Et je pense notamment aux zones rurales, à un certain nombre de communes qui sont des communes dans lesquelles le service public a disparu. Il y a une commune emblématique en France qui est Joigny. À Joigny, les services publics ont disparu parce que les entreprises ont disparu et parce que du coup, le centre-ville est un centre-ville dans lequel le maire fait un boulot extraordinaire avec les commerçants pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient plus sinistrés.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Je réponds à votre question. Je ne vais pas vous donner le chiffre de combien de fonctionnaires à embaucher, mais ce que je sais, c'est que dans deux grands services publics que sont l'école et la santé, il faut recruter. Dans la santé, je l'ai dit, je donne des chiffres. Il nous faut 15 000 médecins par an formés. Il nous faut 25 000 infirmiers et infirmières par an. Dans d'autres services publics, qu'est-ce que je propose comme méthode ? C'est de nous appuyer sur les maires. Au lieu de faire comme comme a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire dénigrer, considérer que les maires ne servaient à rien, sauf quand il fallait venir à la rescousse des conflits sur les gilets jaunes. Je propose qu'il y ait dans la décentralisation du pays, dans l'acte de décentralisation que nous devons prendre, un travail entre l'État et les maires pour remettre du service public là où on en a besoin.
Mais moi j'adore, l'idée est très sympathique.
Non, c'est pas juste une idée sympathique, c'est une idée pour que le pays aille mieux, à Pauline de Malherbe.
Mais dans les faits, Anne Hidalgo, vous dites qu'il faut faire confiance aux maires pour embaucher là où il y a vraiment besoin.
Je dis, il faut que l'État, avec les maires, décide de mettre le paquet sur ces services publics dont on a besoin. Il y a d'autres domaines de services publics.
Je voudrais prendre un exemple, Anne Hidalgo, qui est un exemple que vous connaissez bien, qui est la question de la police municipale. Vous avez évolué là-dessus, vous dites qu'il faut embaucher, sauf que au moment où on se parle...
Je l'ai créé, une police municipale.
Au moment où on se parle, Anne Hidalgo, il manque 1500 policiers municipaux en Île-de-France, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'embauche, parce que les postes sont à pourvoir et qu'il n'y a personne pour les prendre.
Et donc,
en fait, c'est super, mais s'il y a personne,
Il y aura du monde effectivement.
Il n'y en a pas aujourd'hui, mais il y en aura demain.
Ben, vous savez, je suis en train de créer une police municipale à Paris, donc je connais très très bien ce sujet-là. Si vous avez des emplois qui sont rémunérés, avec de bonnes conditions de travail, avec des possibilités d'évolution de carrière pour les personnes qui y rentrent, elles viennent. Vous savez, les Françaises et les Français, ce qu'ils préfèrent, c'est quand même travailler dans des vrais jobs, avec des vraies perspectives et avec des vrais salaires et avec des conditions de travail respectueuses.
Donc là, s'ils viennent
parce que je crois que dans les métiers de la sécurité, on va pas parler aujourd'hui des métiers de la sécurité, mais il y a vraiment un effort à faire sur la professionnalisation de ces métiers. Et je pense, puisque vous parlez sécurité, que la police nationale doit assurer, bien sûr, des recrutements adaptés avec un diagnostic précis de où on a besoin de ces recrutements dans les quartiers et dans les zones rurales, avec notamment
mieux,
la gendarmerie,
recruter mieux
et augmenter les salaires. Et tout ça, ça crée de la valeur pour notre pays. Vous savez,
ça va commencer par coûter quand même. Moi, je veux bien que ça coûte de la valeur, mais d'abord, il va falloir quand même payer.
Ça coûte et ça rapporte. Voilà. Parce que le fait de ne pas avoir des déserts médicaux, d'avoir territoires entiers sinistrés, où il n'y a plus de services publics, où les gens ne peuvent plus aller se soigner, où les écoles ferment, où il n'y a pas de possibilité pour, par exemple, puisque la question du grand âge et la question des EHPAD est à nouveau sur la table.
Avec ce livre,
où il nous
qui a fait l'effet d'une bombe,
mettre en place des services pour accompagner tout
Est-ce
cela.
Est-ce que vous créerez ces un vrai, tiens, prenons cet exemple, est-ce que vous créerez un vrai service public des personnes âgées,
Absolument.
De la même manière qu'il y a un service public de l'enfance,
Absolument, et il faut le faire, et là aussi, je vais vous dire, Emmanuel Macron avait dit le grand projet social du quinquennat, ça sera... la grande dépendance, le grand âge. Moralité, il n'y a eu absolument aucun projet social dans ce quinquennat. Et notamment, il ne s'est pas occupé de cela. Et vous voyez comment la situation explose dans les EHPAD. Donc, bien sûr qu'il faut un accompagnement, parce que c'est une très bonne nouvelle qu'on vive plus vieux. Qu'on vive et en meilleure santé plus longtemps. C'est une très très bonne nouvelle pour notre pays. Encore faut-il qu'on puisse accompagner les familles, les personnes.
Ça va passer par quoi
dans ce grand âge?
Vous allez ouvrir davantage de maisons
d'abord,
de retraite.
D'abord, ça passe par des lieux.
Aider.
C'est vrai. Ça passe par des lieux pour lorsqu'on ne peut plus rester à domicile. Ça passe par l'accompagnement à domicile. Avec quoi? Avec qui? Avec des personnels qui doivent être formés, qui doivent avoir là aussi de vrais métiers, de vraies
mais
perspectives.
Mais là encore, on a beaucoup de mal à les trouver.
Oui, mais vous
embaucher.
Savez, chère Apolline de Malherbe, comme par hasard, dans notre pays, chaque fois qu'on parle de remettre du service public pour vivre mieux, parce que il ne s'agit pas de dépenser pour se faire plaisir de faire une dépense, mais pour vivre mieux sur les grands sujets qui sont les nôtres, l'éducation, la santé, le grand âge, la sécurité, chaque fois que l'on évoque cela, on nous dit, ça va coûter cher. Essayez sans service public, c'est en gros ce qui nous arrive depuis quelques temps. Essayez une école dégradée, c'est quand même ce qui nous arrive depuis quelques temps. Essayez un hôpital dégradé, et ça coûte combien à la société? Ça coûte beaucoup plus cher. Par ailleurs, je vous le dis, en termes de comptabilité publique, lorsque vous créez des services publics, c'est aussi de la valeur ajoutée, et c'est aussi du PIB en plus. Donc moi, je suis vraiment dans mon approche économique du projet que je porte. Je considère que lorsque on met le travail au cœur de ce projet, avec la rémunération plus juste des travailleurs, on génère aussi de la valeur dans le pays. On n'est pas dans une approche malthusienne.
Il y a cette question
et celles et ceux qui nous expliquent à longueur de journée que le service public coûte cher et que grosso modo ça sert à rien sont en général ceux qui ont suffisamment de moyens pour s'en passer.
Mais la grande majorité
des Français ne peut pas se passer du service public.
Au moment, Anne Hidalgo, où en effet le chômage n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps et notamment le chômage des jeunes, vous avez deux approches pour les jeunes. D'abord, vous voulez créer une sorte de cadeau pour les 18 ans, le jour des 18 ans, tous les jeunes, et alors là, sans condition de ressources, toucheraient 5 000 euros. Et à cela, vous ajoutez un revenu d'insertion sous condition de revenu, 850 euros par mois. Au moment où, justement, le chômage des jeunes n'a jamais été aussi faible, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les aider à trouver du boulot et à aller travailler ?
D'abord, pour nos jeunes, il faut les accompagner dans leur vie d'adulte et les accompagner d'une façon moins violente que ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils trouvent avant d'arriver à 18 ans ? Parcoursup, un algorithme qui va décider de leur vie, qui va les orienter vers des filières pour lesquelles ils n'ont absolument aucun goût et pas, là encore, de rencontres avec des gens, des humains qui pourraient leur dire, voilà, quels sont tes goûts, comment on peut t'accompagner dans ta vie, parce que vous le savez comme moi, quand on fait un travail ou qu'on a une mission qu'on aime, en général, on est beaucoup plus heureux que quand on est contraint. Non, d'accord ?
Ça, il n'y a aucun
problème, les accompagner de cette façon-là, par l'éducation et par les parcours que l'on ouvre, notamment dans l'enseignement. Par une aide aussi, par ce capital que l'on donne à ces jeunes pour qu'ils puissent, et je leur fais confiance, à 18 ans, vous pouvez avoir envie d'aller apprendre une langue en faisant...
Ils font ce qu'ils veulent avec les 5 000 euros, ils n'auront pas besoin de prouver ce qu'ils en font.
Je leur fais confiance. Vous savez, là aussi, c'est très étonnant quand on me dit, mais quand même, vous rendez compte, ils vont pouvoir dilapider cet argent n'importe comment. Quand on a supprimé l'impôt sur la grande fortune, on n'a pas conditionné le fait qu'on supprimait cet impôt sur la grande fortune à l'usage de cet argent pour des choses pour lesquelles on serait d'accord. Donc arrêtons. Arrêtons de nous indigner quand il s'agit de faire confiance aux jeunes ou, je dirais, aux catégories populaires, aux classes moyennes, et jamais quand il s'agit de faire des cadeaux à ceux qui vont déjà très très bien.
Et les 850
Donc, oui,
euros
je
par
leur fais
mois,
confiance.
C'est
mais par exemple,
jeune.
Je finis juste sur les 5 000 euros. Vous pouvez aussi avoir des jeunes qui vont se regrouper à plusieurs et qui vont décider de créer ensemble une association, de créer ensemble un projet. Et je sais que beaucoup d'entre eux travaillent déjà de cette façon-là, se projettent dans la vie, dans leur vie future de cette façon-là. Donc je leur fais confiance. Et je sais que ce capital-là va leur permettre aussi de déployer leur créativité. Et on a besoin de leur créativité et ils ont besoin de notre confiance.
850 euros par mois, juste pour finir, ça c'est sous condition de ressources.
850, c'est pas le chiffre que j'ai. Hein.
Non, donc, c'est pas ça, ce sera
non,
plus
c'est
moins.
Autour de 500 euros.
Ah,
et c'est une aide d'urgence. Okay. Une aide d'urgence parce que nous avons tous vu, y compris pendant cette période de pandémie, que beaucoup de jeunes, notamment des étudiants, qui avaient perdu leur petit job. Hein, vous voyez, quand on perd le petit job, qui n'avaient plus les moyens de pouvoir se nourrir. On les a retrouvés. Et nous, les maires, hein, on a organisé avec les associations étudiantes cette aide alimentaire pour tous ces jeunes qui continuent encore aujourd'hui, hein, cette aide alimentaire. Eh bien, il faut bien sûr une aide d'urgence pour qu'aucun jeune ne soit dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse même pas se nourrir. Mais bien sûr, dans le projet que je porte, l'idée, c'est de donner à ces jeunes la possibilité de suivre la filière qu'ils veulent. Par exemple, et je reprends aussi cette proposition, je propose que après le bac, toutes les formations du supérieur puissent être faites, notamment dans le cadre de l'alternance. Parce que dans le cadre de l'alternance...
Commencer à travailler tout en étudiant.
Oui, mais dans un cadre de parcours et de diplôme où le temps que vous passez à travailler vaut pour votre diplôme et ce temps-là est un temps dans lequel vous avez un statut, une rémunération, vous êtes respecté. Ce n'est pas un job que vous faites à côté pour essayer de payer vos études, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'obtenir votre diplôme et je pense que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour les jeunes, évidemment, parce qu'ils ont besoin aussi de ce rapport aux adultes, de ce rapport au monde du travail. Pour les entreprises, parce que c'est très important pour les entreprises de pouvoir aussi bénéficier de ce regard des jeunes sur le monde qui vient. bien. Comment il se projette pas du tout comme votre génération ou encore la mienne. C'est très important d'établir ce lien et d'avoir ce temps-là. Et puis ça peut permettre aussi dans certaines entreprises de remettre ce tutorat, c'est-à-dire puisque dans mon notamment dans mon projet sur les retraites et notamment sur le financement des retraites, je dis qu'il nous faut aider aussi à les seniors à pouvoir rester dans l'entreprise, les 55-62 ans qui aujourd'hui sont quand même à un taux d'emploi très très faible. Eh bien ces seniors-là, ils ont des savoir-faire, ils ont des compétences, ils ont envie de transmettre leur savoir-faire et leurs compétences, et ce serait aussi une façon très judicieuse de pouvoir les impliquer dans l'accompagnement des jeunes vers leur formation.
On poursuit évidemment cette interview présidentielle, sauf qu'il y a quand même aussi une réalité en tant que maire aussi qui vous rattrape aujourd'hui, c'est la question du crack, les consommateurs de drogue qui continuent donc à zoner dans le nord de Paris. Le crack, c'est on a l'impression un peu un éternel recommencement, mais c'est assez symptomatique. C'est assez symptomatique quand même. Alors le préfet de Paris a annoncé hier que les toxicomanes seraient déplacés dans le 12e arrondissement sur d'anciens rails de la SNCF, et vous refusez. Alors moi je veux bien, mais j'aimerais bien savoir ce que vous proposez.
Alors ce que nous refusons, parce que nous sommes très nombreux à le refuser, et hier il y avait une conférence de presse autour d'Emmanuel Grégoire avec aussi le maire de Charenton, le maire
qui est votre premier adjoint.
Non, le maire LR de Charenton. Emmanuel Grégoire, mon premier adjoint, qui se sont élevés comme moi par rapport à cette méthode. Je l'ai dit au préfet de police.
Mais moi je veux bien. Vous proposez.
Eh bien, je vais vous dire ce que je propose. D'abord la politique qui consiste
de Paris depuis hier.
Déplacer. Oui, et ça fait 30 ans en effet que le crack est un sujet sur le nord-est parisien. Donc je dis et je redis au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas juste moi, Anne Hidalgo, les habitants, les élus de tous bords, les élus de la Seine-Saint-Denis, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée que on déplace le problème sans pour autant s'en occuper. Sans s'en occuper, ça veut dire quoi? Le préfet de police déplace le problème, ne met en place aucune sécurité pour les riverains, et c'est très compliqué pour les riverains de vivre sur des territoires où il y a finalement une zone de non-droit.
C'est le cas aujourd'hui.
C'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous trouvez juste qu'on vous dise, parce que c'est quand même ce que m'a dit le préfet de police, il m'a dit écoutez, de 3 mois en 3 mois, on va changer d'endroit. Vous trouvez ça juste, vous?
Mais vous, Anne Hidalgo, vous avez dépensé depuis 2019, 25 millions d'euros.
Absolument.
Pour quel résultat?
Eh bien, avec l'État, puisque ce n'est pas ma compétence d'ailleurs, il y a un plan crack sur lequel on travaille.
Mais demain, l'État, c'est vous si vous êtes présidente.
Ça sera moi et je ne traiterai pas du tout de la même façon. Et la deuxième chose,
comment vous traiteriez?
Eh bien, ce que je vous dis, c'est d'abord pas en déplaçant le problème. On peut dire quand même comment on ne ferait pas.
Comment vous ferez
pas en déplaçant le problème. Et le préfet de police et le ministre de l'Intérieur veulent déplacer le problème. Je ne suis pas d'accord. Et comment on traite ce problème majeur? On le traite en créant aussi des lieux pour les personnes toxicomanes, qui sont des personnes qu'il faut traiter à
salle
l'hôpital.
De shoot, ce qu'on appelle les salles
non,
de shoot.
À l'hôpital.
Enfin, vous l'appelez comme
non.
Vous voulez, mais enfin,
et ben
salle
non,
de shoot, les
et bien,
gens savent ce que
non,
c'est.
Et non, et non. Ce n'est pas cela. Parce qu'on est sur le sujet du crack, on n'est pas sur le sujet de l'héroïne. Et d'accord. Quand on connaît bien les sujets d'addiction, ça s'appelle la réduction des risques. La réduction des risques, c'est quoi? C'est les personnes qui sont toxicomanes, elles vont dans un hôpital, elles sont suivies par des structures, par des personnels, il faut des psychiatres, il faut des personnels qui accompagnent dans une politique de réduction des risques. Ça s'appelle comme ça, c'est ce que pratiquent nos voisins quand ils essayent de sortir de situations comme celles qu'on connaît depuis 30 ans et sur lesquelles ce gouvernement en particulier ferme les yeux et laisse quoi? Laisse des riverains, des maires, des élus et des personnes en situation de danger pour elles-mêmes, parce que les toxicomanes sont aussi en situation de danger pour eux-mêmes, les laisse errer dans des zones de non-droit, et en montrant quoi? Que les pouvoirs publics seraient impuissants. Eh bien avec moi, présidente, les pouvoirs publics ne seraient pas impuissants. Je ne réglerai pas le sujet de cette façon-là et je mènerai une véritable politique de réduction des risques et une politique de sécurité dans les quartiers où ces trafics ont lieu. Parce que vous savez ce qui est vraiment ce qui m'indigne et m'insupporte, c'est que quand on m'a expliqué, et je suis allée sur place, quand on m'a expliqué qu'il fallait laisser et tous les 3 mois changer de lieu, et que j'ai dit au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, vous vous rendez compte que vous êtes en train de laisser là des dealers parce qu'ils ont leur stand de boulettes de crack. braquent sous les yeux de tout le monde et que personne ne vient les interpeller, et vous croyez que moi je vais endosser la responsabilité qui est la leur parce qu'ils n'assument pas la responsabilité qui est la leur en agissant ni sur la sécurité ni sur la réduction des risques, eh bien non. Et il y a un moment où cette chose-là finit par se voir. Ils ont essayé d'instrumentaliser ce dossier contre moi, ils ont essayé de me rendre responsable de cette situation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent avec tout le monde contre eux aujourd'hui, parce que personne n'accepte cette façon indigne. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Au nom de la mairie de Paris.
Parce qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord un sujet de non prise en compte de la sécurité des riverains et des personnes qui habitent à proximité de ces lieux de deal et de consommation. Et deuxièmement, il y a une situation indigne qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits humains sur le traitement de ces personnes toxicomanes.
Anne Hidalgo, je voudrais qu'on finisse quand même sur une archive. C'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, la campagne de François Hollande, un meeting au Bourget.
Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ça, c'était la campagne de François Hollande. 10 ans, jour pour jour, même département, votre meeting.
À chaque échéance, on m'a donné battu, exclu, illégitime, renvoyé à l'opposition. À tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves!
On n'est pas tout à fait dans la même tonalité. Il y avait quand même nettement moins de monde.
On est sous Covid.
Non, mais vous ne pouvez pas dire un coup, campagne n'a pas commencé, un coup, c'est à cause du Covid.
Écoutez, d'abord, il y a une situation politique, d'explosion politique en 2017, avec la gauche qui s'effondre, avec François Hollande qui n'est pas candidat pour défendre son bilan et à sa réélection, avec une gauche qui s'est émiettée, qui s'est divisé, une droite qui était aussi très mal en point, qui se reconstruit un peu plus rapidement que nous, peut-être. Donc il y a cette situation politique, et je la vois avec lucidité, qui s'est passée aussi dans d'autres pays européens.
Mais ils sont où, par exemple, vous avez vu dans ces images, on voit le premier rang du meeting de François Hollande.
Oui.
Ils sont où ceux qu'on appelait les éléphants? Il y a plus grand monde pour vous soutenir.
Je ne vous laisse pas dire ça, parce que vous savez, d'abord, j'arrive dans un moment, souvent les femmes arrivent dans des moments qui sont des moments difficiles pour relever le flambeau. J'arrive dans un moment où moi, je suis en situation de pouvoir parler et rassembler. Ce que je rassemble,
c'est rassembler toute une nouvelle génération
de maires, d'élus, cette équipe de France des maires qui a prouvé dans les élections locales qu'ils étaient là, qu'ils avaient conquis la confiance de nos concitoyens et qu'ils avaient même réussi à élargir leur majorité. J'ai avec moi des personnalités, des anciens ministres. Je suis très heureuse d'avoir deux belles personnalités qui sont à mes côtés dans cette campagne, qui m'inspirent et qui participent à cette campagne au quotidien, Martine Aubry et Bernard Cazeneuve, mais beaucoup d'autres aussi.
Mais Anne Hidalgo, beaucoup d'autres aussi. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes découragée?
J'ai du mal à me décourager parce que ma vie, je l'ai choisie. Vous savez, je suis pas à plaindre. Je pense qu'on est là, non pas pour se plaindre et parler de nous, mais pour essayer d'apporter aux Françaises et aux Français ce qu'ils attendent du politique. Je crois dans la politique. Je pense qu'on ne peut pas se passer de politique. Notre pays et ce gouvernement d'Emmanuel Macron a beaucoup dépolitisé ces dernières années. Et je pense qu'on a besoin de la politique, mais qu'il faut lui redonner des lettres de noblesse. Il faut dire aux Françaises et aux Français ce que l'on a compris de la distance qu'ils ont pu prendre avec nous. Et puis, il faut construire, bâtir. C'est ce que je fais pour aujourd'hui
et
sans doute pour demain.
Ils pourront juger, puisqu'effectivement, il y aura ces élections. Merci,
Anne
Hidalgo, d'avoir pris le temps pour cette interview
à
XXL. Anne Hidalgo sur BFM TV et RMC. Il est 9h25.
RMC 2022, l'interview grand format.